de Jules Lhermina, Maison tranquille. En vérité, était-ce bien une maison? Quatre murs de couleur noirâtre, percés de quelques trous parallélogrammatiques, décorés du nom de fenêtre, une porte brune avec de fortes ferrures et de gros clous, le tout sombre, triste, ressemblant à un visage de nègre qu'on vient de fouetter. Les pierres ont leur résignation, celles-ci avaient l'air de supporter péniblement leur sort. Jamais un éclat de voix ne venait les égayer, jamais une chanson ne les faisait rire. Elles s'atrophiaient dans leur immobilité, et, lourdes, elles s'appuyaient les unes sur les autres, comme pour s'aider à porter le poids de ce silence. Cette masse s'ennuyait. Elle n'avait même pas cette ressource de procurer l'effroi à qui passait. Quiet House, maison tranquille, ne faisait peur à personne. Môle banal, au dessin carré, à l'allure bénigne, un bâillement de pierre, c'est tout. On passait, on repassait devant cette curiosité, inanimée comme un sphinx endormi, sans même tourner la tête. Elle était située à l'extrémité de la ville, au-delà de Hoboken, auprès des Champs-Élysées, dont les arbres et la couleur mate des plantations de cimetières. Mais pourquoi cette maison était-elle allée se placer là, comme un poste perdu? Nul n'y venait, nul n'en venait. C'était à supposer qu'elle n'était pas habitée. À la maison attenait une sorte de parc entouré de murailles trop hautes pour que le regard pût tenter une indiscrétion. En réalité, personne ne songeait à commettre semblable faute. L'habitation était isolée, donc pas de voisins intéressés à percer le mystère, si toutefois il en eût valu la peine. La route devant laquelle elle étalait sa façade grise était peu fréquentée et il était presque surprenant d'y voir marcher quelqu'un après le coucher du soleil. Mais le plus curieux, c'était moins ce que l'on ignorait que ce que l'on savait. Il était de notoriété publique que Quiet House n'était pas abandonnée. Elle servait bel et bien de demeure à trois personnages, à quatre pour mieux dire. C'étaient deux médecins, les docteurs Aloysius et Trophémus, dans TV, femme du premier, et la petite Nettie, leur fille. Comment se procurait-on les aliments nécessaires à sa vie? Voilà ce que personne n'aurait pu dire, et, sur ma foi, si bien que fût gardée la maison, il fallait que le secret fût bien caché, pour que nul n'eût pu le découvrir. En effet, John Clairfax, le boucher d'Hoboken, Smithson, l'épicier établi à côté de lui, Pardon le boulanger, n'avait pu admettre tout d'abord que la clientèle de Quiet House ne leur échut pas. Aussi s'étaient-ils présentés dans le temps pour offrir leur service. Ils avaient arrêté devant la porte leurs trois voitures chargées de provisions, l'une avec ses gigots pendants et ses quartiers de bœuf tressautant au cahotement des roues, l'autre avec ses saucissons et ses chandelles disposées en guirlandes à la capote de cuir, le troisième enfin avec ses pains tout dorés et brillants. Ils avaient dû frapper longtemps avant que s'ouvrit la porte blindée en dehors, verrouillée au-dedans. Mais le fournisseur à l'homme patiente, si bien que le panneau avait enfin roulé sur des gonds criards et qu'une figure douce et souffreteuse, encadrée de cheveux grisonnants, avait paru, regardant avec de grands yeux surpris les gens tenaces qui ne se rebutaient pas de ce silence prolongé. « Que voulez-vous, messieurs ?» demanda d'une voix douce Dame Tibby, femme du docteur Aloysius. Mais reconnaissant bien vite à qui elle avait affaire, « Oh non, merci, dit-elle vivement, nous n'avons besoin de rien. » Aujourd'hui, insinua gracieusement John, le boucher à la face réjouie, mais demain. « Oh, demain non plus, répondit Dame Tibby. Alors, reprirent en même temps Sisson et Pardon, ce sera pour la prochaine fois, semaine prochaine. Non, inutile de vous déranger, messieurs, insista la femme. Nous n'avons et nous n'aurons besoin de rien. Jamais, grogna Johnson. Mais comment cela? S'écria Sisson. On ne mange donc pas ici, s'exclama Pardon. Au même instant, une tête blonde parut à hauteur du coude de Madame Tibby, tête d'enfant d'un ton singulier, tant il était clair et uni, quoique sans couleur. Nettie, car c'était l'enfant d'Aloysius, poussa un cri de joie et d'admiration en apercevant toutes les victoires orgueilleusement étalées par les tentateurs. Oh, maman, s'écria-t-elle, mais qu'est-ce que c'est que cela? Rien, rien, mon enfant, dit Dame Tibby, qui tressaillit et regarda derrière elle comme si elle eût craint d'être surprise. Puis, repoussant la petite Nanny, va-t'en, mon ami, et vous, messieurs, adieu, je vous dis, je regrette de vous dire qu'il est inutile de revenir. Et la porte se referma. Les trois négociants se regardèrent, mais aucun d'eux ne trouvant sans doute une solution à l'étrange problème qui venait de leur être posé, ils s'en prirent à leurs chevaux qu'un vigoureux coup de fouet lança vers la ville. Je vous dis, je regrette de vous dire, avait insisté Dame Tibby. Réellement, elle avait accentué ces deux mots, je regrette, de bizarre façon. Et si l'on ne craignait pas de se tromper, on pourrait affirmer qu'en les prononçant, elle avait regardé gigot, saucisson et miche de pain d'un regard presque ardent. Elle avait pourtant ajouté qu'on n'aurait jamais besoin de rien. Revenus à Hoboken, les fournisseurs déclarèrent avoir rencontré une famille de gens qui ne mangeaient pas. Un homme pratique répondit que ces gens-là étaient bien heureux. Plusieurs ajoutèrent que c'était une notable économie d'argent. Et comme tout Américain doit en premier lieu négliger de se livrer à des réflexions inutiles, personne ne songea plus aux habitants de White House qui restèrent libres de vivre à leur guise. Troisième personnage, le docteur Aloysius, maître de la maison. Pour parler de lui, la transition est facile. Car seul on le voyait 4 ou 5 fois par an sortir de la maison fermée. Ce jour-là, la porte laissait passer une sorte d'émaciation vivante qui avait une tête, des bras et des jambes, et qui devait avoir évidemment la prétention d'appartenir à la race humaine. La tête était pointue, anguleuse. Il y avait au-devant de cette tête un visage jaune, qui, si la peau eût été grattée, aurait peut-être révélé le plus curieux de tous les palimpsestes. Ce visage avait une proéminence dans laquelle on avait quelque peine à reconnaître un nez, tant les narines serrées faisaient ressembler la chose à un morceau de lame de couteau fiché entre deux joues, d'ailleurs plates et creuses. La bouche était un trou pâle au fond duquel on eût en vain cherché les dents. Les gencives avaient la couleur des lèvres, hideste point de couleur. Les yeux étaient noirs comme de l'anthracite, le crâne pelé, la barbe absente. Rien de l'oiseau de proie, cependant, dans toute la physionomie, une bonasserie morne, une inertie peut-être inoffensive, mais peut-être cachant l'indifférence la plus absolue pour le bien comme pour le mal. Les jambes, véritables tiges de fuseau, sortaient d'un sac sans forme qui avait dû être noir, mat, mais étaient lustrées par l'usure et la vieillesse. Les mains osseuses s'étendaient hors des manches élimées et toutes frangées. Donc le docteur Aloysius paraissait au seuil de la maison. Un autre personnage l'accompagnait jusqu'au perron, c'était le quatrième, maître Truffémus. Antithèse vivante de chair et d'os, de chair surtout, Trifémus était rond. Il représentait le cercle comme Aloysius la ligne droite. Et en vérité, moins le cercle que la sphère. Tout était rond en Trifémus, ensemble et détail. Agglomération de boules formant boules. La tête d'abord, ronde, avec des yeux ronds bombés, une bouche ronde, des joues rondes, un menton rond, un nez rond. Les épaules fuyaient dans une douce déclivité pour encadrer un thorax qui ne faisait qu'un avec le ventre, prééminent et se fondant avec des hanches, les cuisses et le reste. Le dos voûté ne disparaît pas, cette sphéricité. Rien de droit ne brisait cette courbe. Les jambes complétaient, pôle sud, la tête qui figurait le pôle nord. On eût dit une outre qu'un verrier venait de remplir d'un souffle vigoureux. Les deux docteurs causaient un instant sur le pas de la porte. Maître Aloysius tirait de sa poche un papier qu'il déroulait, puis lisait quelque chose que Maître Trufémus écoutait avec l'attention la plus profonde. C'était une liste. Trufémus hochait la tête, approuvait ou avançait les lèvres, comme pour dire « Oh, oh, peu utile !» Alors Aloysius biffait. Ce travail de vérification achevé, Aloysius remettait le papier dans sa poche, tendait à Trufémus sa main longue qui en serrait les doigts potelés de son compagnon. La porte se refermait, Aloysius partait. Son absence durait jusqu'au soir. Vers 6 heures, on voyait sur la route quelque chose d'insolite. C'était une voiture à bras attirée par un homme. Maître Aloysius marchait derrière, couvrant de son regard noir la cargaison du véhicule. Cargaison bien étrange, un amas de ferraille, des débris de métaux de toutes sortes, puis pêle-mêle des flacons pleins de matières de toutes couleurs, du bleu, du jaune, du vert, du rouge, voire même du blanc. La voiture était lourde, car l'homme suait, et ses épaules tendues en avant s'arquaient sous la pression des bridelles de cuir. Par bonheur, la route était plane. Le cortège arrivait devant White House. Maître Aloysius enjoignait au portefeuille de s'arrêter quelque part avant la maison, puis il allait frapper lui-même de façon particulière, et on lui ouvrait de l'intérieur sans retard. Maître Trufémus apparaissait de nouveau, comme ces personnages des horloges qui sortent de leur niche à certains moments de la journée. Il venait, avec son confrère, enlever successivement de la voiture les objets qu'elle renfermait. C'était un assez long travail, car elle était bondée au-dessus des ridelles. Et puis Maître Trufémus s'arrêtait parfois en chemin pour contempler le précieux fardeau qu'il portait dans ses bras. C'était par exemple de vieux morceaux de gouttière ou des barreaux rouillés arrachés à quelques rampes d'escalier. Il les couvait amoureusement du regard et n'était le respect humain. On comprenait qu'il les eût baisés. Mais Aloysius entendait qu'on se hâtât et s'apercevant du trouble de son compagnon, « Alors, vieux gourmand, lui criait-il un peu plus vite que ça, vous savez bien que le dîner attend. » Dame Tibby se mettait de la partie, et les objets passaient par les mains des trois personnes comme les briques que les maçons montent d'un étage à l'autre. Nettie elle-même avait son rôle. Aloysius lui donnait les plus petits morceaux avec une tape amicale sur le front. On payait l'ouvrier, qui repartait avec un air visible de satisfaction, preuve que le travail était grassement rétribué. Pénétrons dans Coyote House. Il est 7 heures du soir, il fait presque nuit. Si bizarre qu'elle soit à l'extérieur, la maison est plus étrange encore à l'intérieur. Pas une pièce régulière et qui ait réellement droit au titre de chambre. Essayons cependant de décrire. D'abord, les caves ne font qu'un avec le rez-de-chaussée et le premier étage. Seul le second étage paraît soutenu par un plancher immobile. Tout l'espace qui s'étend depuis ce plancher jusqu'au sol à fleur de fondation est rempli par des caisses de diverses grandeurs que soutiennent dans le vide des chaînes et des cordes fonctionnant au moyen de poulies fixées à des poteaux de fer. Ces caisses sont de grande taille, plus hautes qu'un homme ordinaire, et formant un cube régulier. Elles sont munies d'une porte. Les poteaux de fer ont les bras mobiles qui tournent sur eux-mêmes, si bien que les caisses peuvent changer de position sur toute la largeur de la maison. Au moyen de chaînes et de poulies mises en mouvement par un mécanisme dont les engrenages se voient de tous côtés, on peut les descendre à telle hauteur qu'on le désire. Quand toutes ces caisses sont élevées en l'air, elles laissent absolument libre le fond des caves. Ici, il est plus facile de se rendre compte de la nature du lieu. Ce ne sont que fourneaux de formes bizarres, appareils de toute nature, cornues, alambics, matrasses, puis des instruments de mécanique, une énorme machine électrique dont le disque de verre mesure plus de 2 mètres de diamètre. Ce sont là matériaux de chimistes et de physiciens, à n'en point faire douter un seul instant. Toute la proportion de la façade qui regarde du côté du jardin, dont nous parlerons plus loin, est percée de hautes ouvertures qui se ferment à volonté au moyen de volets glissant dans des rainures ad hoc. Dans les coins, des amas de matière de couleur noirâtre, débris métalliques et rouillés. Au mur, presque à ras du sol, des planches supportant des bouteilles à demi ou complètement remplies de sel, de poudre, d'extrait, le tout étiqueté soigneusement. En un point spécial, une planchette clouée à la muraille et percée de trous au milieu desquels on voit des boutons blancs, châtres surmontés de petits écriteaux portant ces mots Maître Aléusius, Maître Truphémus, salle à manger, bibliothèque. Ces mêmes indications se répètent sur les caisses de bois. Les boutons mettent en jeu des appareils électriques. Selon qu'on presse celui de droite, de gauche ou du milieu, la chaîne qui se déroule laisse descendre le cabinet de l'usus ou la bibliothèque. On adapte une échelle qui va du sol à la caisse, on ouvre la porte et on s'introduit dans la boîte. Au moment où nous jetons dans White House un regard indiscret, Truphémus est au fond de la cave et, à la lueur d'une lampe de forme bizarre dont se dégage la lumière blanche de l'électricité, suit dans un creuset le travail de transformation qui s'opère. Mais Truphémus est visiblement préoccupé. Ses yeux ronds regardent mal et sa pensée ne va pas droit son chemin. Aussi, en un moment donné, fait-il un geste de découragement, suivi d'un autre geste de décision. Il vient de prendre une résolution. Il écarte le creuset du foyer électrique qui maintient la fusion. Puis il se dirige vers le tableau indicateur et pousse violemment le bouton d'Aloysius. Un peu trop fort en vérité, car voilà la chaîne qui tourne sur la poulie avec un grincement rapide et la boîte qui descend comme si elle tombait. Mais les ressorts sont solides. La caisse s'arrête avec un tressautement. Truphémus applique l'échelle, étendant les bras autant qu'il est en lui pour permettre l'ascension de son ventre proéminent. Il ouvre la porte. Aloysius a été à demi renversé par le choc et ses membres osseux ont quelque peu souffert dans cette descente brusque. « Mais que diable, mon ami » s'écria-t-il à l'apparition de Truphémus. « Mais qu'est-ce qui vous prend? Votre visite ressemble à la chute d'une avalanche. » Truffemus ne répond pas. Il referme soigneusement la porte et par un mouvement instinctif regarde autour de lui pour s'assurer que nulle oreille indiscrète ne peut entendre ce qu'il peut avoir à confier à son confrère. Et de fait, vu la disposition des lieux, la chose eût été vraiment malaisée. « En tout cas, » reprend Truffemus en réponse à la vive interpellation de son ami, « chute est impropre, l'avalanche descend et je monte. » Soit, du reste, le point est peu important, et votre purisme peut me faire grâce pour cette fois. Enfin, de quoi s'agit-il? Avons-nous quelque accident en bas? Aucun. Le brome va-t-il bien? Admirablement. Le cyanure de potassium se comporte comme il convient. Oh, j'en suis fort aise, car vous m'aviez fait une peur. La peur n'est qu'une contraction musculaire, et involontaire, mais c'est pas la question. Expliquez-vous, je vous prie, car j'ai hâte de me remettre au travail. Maître Truffemus, ainsi mis en demeure de s'exécuter, posa sa rotonde personne sur une pile de livres gisant à terre, et appuyant son visage entre ses deux mains, les coudes portant sur ses genoux, regarda Aloysius de ses yeux d'un bleu mat. Cher ami, je crois que depuis notre liaison ou plus notre association scientifique, nous n'avons qu'à nous louer des progrès obtenus. Bon, j'en tombe très volontiers d'accord, et puisque j'en trouve l'occasion, permettez-moi de reconnaître l'étonnante faculté d'intuition dont vous êtes doué et qui nous a permis de résoudre des problèmes devant lesquels les plus savants avaient reculé. Comme aussi, je vous demanderai l'autorisation de rendre justice aux surprenantes preuves de ténacité et de persévérance dont vous avez donné des témoignages extraordinaires. Les deux savants saluèrent. On se serait cru dans une académie. Passons, dit Truffemus. Passons, dit Aloysius. Et au nombre de ces problèmes, je prendrai la liberté, continua Truffemus, de signaler tout particulièrement celui de l'alimentation. Vous connaissez la question aussi bien, je dois même ajouter mieux que moi. Cependant, laissez-moi résumer les découvertes que nous avons réalisées. Aloysius ferma les yeux et croisa ses doigts qui craquèrent. Il écoutait. De quoi se nourrit le corps humain? Reprenons pour quelques moments le langage des routiniers ignorants. À cette question, ils répondent quoi? Que le corps se nourrit de substances végétales et animales. Les aliments doivent être tirés de ces deux espèces de la nature et ils excluent les substances purement minérales. Mais c'est comme si les Otomaques, les Guanos, les bords de l'Orénoque ne se contentaient pas de terre seule. En effet, reprit Truffemus, dont le ton indiqua le regret d'être interrompu, je continue. Mais qu'est-ce que les substances végétales ou animales, sinon des combinaisons diverses d'éléments primordiaux nécessaires à la nutrition? Éléments peu nombreux et qui seuls, j'insiste sur le mot, concourent entièrement à l'entretien de la machine humaine. Précisons. Tout ce qui est nourriture se compose de matières azotées, mêlées à d'autres substances privées d'azote. Et là est le point, j'ose le dire, où nous avons véritablement franchi d'un seul bond la limite que nous imposait la stupidité des impuissants. Partant de ce principe que l'azote est le nutritif par excellence, nous nous sommes dit, mais pourquoi l'humanité se crée-t-elle depuis si longtemps des tracas et des dangers sans nombre pour chercher dans tous les pays du monde des substances de saveurs, de formes, de couleurs diverses, quand il est si simple, oui, de s'en tenir aux éléments même de la nourriture. Parfaitement, et pour cela, que fallait-il? Ici, Truffemus appuya lentement sur chaque mot. Analyser les éléments du corps de l'homme, en établir les quantités proportionnelles, afin de les remplacer au fur et à mesure de leur épuisement. La vérité, dit Aloysius, on ne saurait énoncer plus clairement nos idées. L'homme, continua Truphemus, visiblement flatté de cet hommage direct, contient de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore et du fer. Mais si par combinaison binaire ou tertiaire, ces éléments produisent des substances diverses, sels, acides ou autres, sous l'influence de la vie, elles produisent la matière organique et, comme l'a dit si bien le grand Berzelius, les matières organiques sont des oxydes de radicaux qui eux-mêmes résultent les uns de deux éléments, carbone et hydrogène, ou carbone et azote, les autres de trois éléments, carbone, hydrogène et azote. Mais passons sur les détails. Oui, passons, répéta Aloysius. Devions-nous donc accepter, sans vous dire, la ridicule condamnation prononcée par l'ignorance contre quiconque tenterait de reconstituer les matières organiques? De Bruyne, Rachete, Wöhler, nous avait-il pas prouvé que la solution du problème était proche? Qu'avait-il manqué à leurs expériences pour qu'elles fussent définitives? Et Truphemus regarda son vieux compagnon d'un air malin. Aloysius sourit. Oui, que leur avait-il manqué? Dit-il à son tour. Il y eut un moment de silence. Les deux savants savouraient leur triomphe en le renouvelant par la conversation. Mais Truphemus reprit le premier sa gravité. Ben, il leur avait manqué, à ces précurseurs d'Aloysius et de Truphemus, de comprendre que si les combinaisons s'effectuaient, c'était sous l'influence d'un principe qui n'est pas donné à l'homme de définir, mais dont il constate l'existence, à savoir le principe de la vie, et que par conséquent, pour que la matière organique se produisît, il fallait que les combinaisons se fissent sous l'influence de ce même principe. En un mot, et pour finir, il suffisait d'introduire dans le corps humain l'oxygène, le carbone, l'azote et l'hydrogène pour que, sous l'action de la vie, la matière se reconstituât. Et quand on songe, dit Aloysius pensif, que des générations successives ont souffert de la faim parce qu'elles ne pouvaient se procurer de froment, de viande ou de légumes. Chacun de ces trois mots avait été prononcé avec un dédain intraduisible, qui s'accentuait d'ailleurs dans un ricanement de Truphemus. Pourtant, la sagesse des nations, objecta-t-il, n'avait-elle pas tracé à l'humanité sa véritable voie dans cette phrase? Vivre de l'air du temps, mais passons, passons, répéta encore une fois Aloysius. Il s'agissait donc d'opérer l'ingestion de l'organisme humain et, pour les soumettre à son action, des éléments premiers de toute nourriture, après avoir toutefois soigneusement établi la proportion des poids atomiques. Pour des analystes que nous, cher maître, c'était un jeu. C'était un jeu, dit Aloysius, flatté à son tour. Puis de réduire ces éléments sous une forme telle que leur ingestion fut facile, à quelle forme s'imposait elle-même, la forme liquide. C'est alors que, parvenus à obtenir la liquéfaction de l'azote, vainement tenté jusqu'ici à modifier les proportions combinées de l'oxygène et de l'hydrogène de façon à produire des eaux diverses, nous avons composé ces liqueurs différentes qui, depuis tantôt un an, servent à notre nourriture. Et nous ne nous en portons pas plus mal, dit Aloysius, que sa maigreur paraissait enchantée. Je m'en porte même d'autant mieux, dit Truphemus en fermant les yeux et en tapotant des doigts son ventre rond et creux. Ah, il faut dire, répondit Aloysius, que vous êtes un gourmand d'azote surtout. Peste, quelle consommation! Ah, si cela vous profite. Ah oui, que voulez-vous, je suis un mangeur. Mais quelle joie, continua Aloysius, de se sentir dégagé de tous ces soucis ridicules auxquels l'humanité s'est si longtemps condamnée, de n'avoir plus ces prétendues recherches de goût qui vous faisait l'esclave de quelques papilles nerveuses. Mais pourquoi m'avez-vous rappelé tout cela, cher maître ?
Parce que, mon ami, je suis sur la trace d'une découverte encore plus étonnante, encore plus remarquable.
Impossible. Mais si je vous l'affirme,
alors parlez, parlez vite.
Je vous avoue, dit Truphemus, que notre entretien s'est prolongé plus que je ne l'avais supposé. Oh, j'ai une faim. Si vous le permettez, nous le reprendrons après dîner. Et à propos, quelle est la carte aujourd'hui ?
C'est le jour des œufs. C48, H38 et AZ163.
Fort bien. Allons dîner.
La caisse qui portait le titre de salle à manger n'était pas le lieu le moins bizarre de cette habitation d'excentrique. Lorsque les deux savants y entrèrent par les moyens décrits, les deux autres habitants de la maison s'y trouvaient déjà, c'est-à-dire Madame Tibby et sa fille. Au milieu de la pièce s'étendait une table qui n'aurait rien offert de remarquable si sa nappe étincelante de blancheur n'avait été couverte d'objets peu propres à donner l'idée d'un repas. Aux quatre places qui allaient être occupées par les convives se trouvaient divers appareils de forme étrange, flottant entre le flacon et l'alambic. Au bout de la table, un ballon de verre à col effilé se recourbant et trempant dans un petit seau rempli de limaille. Au-dessus du ballon, une lampe électrique avec ses deux pointes de charbon. À l'arrivée d'Aloysius et de Truphemus, la femme et l'enfant se levèrent.
Dame Tibby étant jeune encore, 40 ans à peine. Elle avait sans doute été jolie, ainsi qu'on en pouvait juger, par la finesse de ses traits. Mais toute sa physionomie était empreinte d'une telle expression de souffrance, ses joues amaigries révélaient une fatigue si profonde qu'elle semblait moins une femme qu'une ombre endolorie. Nelly était petite, elle avait 5 ans, mais avait à peine le teint la taille de 2 ans. Son teint était si blanc, son front si pâle, qu'on hésitait à croire que ce fût du sang qui coulait dans ses veines. Seuls les yeux vivaient. Dans ce regard, il y avait une malice ou bien une méchanceté diabolique. Pas un éclair de douceur, mais une âpreté continue. Si elle parlait, sa voix était sèche et rude. On aurait cru entendre le grincement des rouages d'une automate. Maître Aloysius, le père, s'approcha d'elle et lui fit sur les cheveux une caresse amicale. L'enfant ne sourit pas. Elle tourna sur le savant, ses yeux mats et fixes, avec leurs reflets d'acier bleuâtre. Truphemus salua galamment Dame Tibby en lui disant de sa voix flûtée « Eh bien, sommes-nous en appétit aujourd'hui ?» Dame Tibby semblait douce, mais il ne faut jamais oublier que les apparences sont éminemment trompeuses. Elle releva la tête à cette interpellation comme le cheval qui sent l'aiguillon. « En appétit !» s'écria-t-elle. « Je voudrais bien savoir si la faim n'est pas ici une maladie chronique.
Eh, eh, ricana Aloysius. Voici que vous aussi, cher ami, vous vous habituez à parler le langage scientifique.
Mieux, du moins, fit-elle d'un ton de colère, qu'avalez-vous, misérable drogue ?
Là, là, ne nous emportons pas, reprit Aloysius, tandis que Truphemus jugeait inopportun de se mêler à la conversation. Je sais que vous êtes attaché aux mesquines préoccupations de la vie des ignorants.
« Oh, certes, si vous entendez par là les rumsteaks de bœuf ou les côtelettes de mouton. »
Aloysius sourit avec une expression de profonde pitié. « Vous vous laissez séduire par la couleur, par le goût. Tenez, » continua-t-il en soulevant et en approchant de son œil un des flacons déposés sur la table. Voyez cette liqueur pure et claire. Elle renferme tous les éléments constitutifs des mammifères herbivores. Rien n'y manque. En quoi vous serait-il plus agréable, je vous le demande, de vous fatiguer les dents à déchirer et à broyer cette chair fibreuse? Bon, mais assez sur ce sujet. Ce que Saint Chrysostome me disait du jeûne, je l'appliquerai à notre système. C'est la mort du vice, le vie de la vertu. C'est la paix du corps et l'ornement de la vie. C'est le rempart de la chasteté et le boudoir de la pudeur. Bravo, dit Truphémus. Encore un peu d'azote, je vous prie. Ah, prenez garde, cher ami, reprit Aloysius en lui passant le tube. Vous arriverez à la pléthore, et alors, garde la congestion. Offrez-nous le déluge. Cet après-nous ne tardera pas beaucoup, murmura l'incorrigible dame Tibby, en sirotant à petits coups une combinaison d'hydrogène et d'acide carbonique. Encore, dit Aloysius avec une mine d'impatience. Dame Tibby, ma chère, nous ne nous entendrons donc jamais. Oh non, certes, tant que vous ne vous condamnerez, Netty et moi, à cette maudite nourriture. Je vous ferai remarquer, mon ami, que notre Netty est loin de s'en plaindre. Mais cela ne m'étonne pas, elle n'en aurait pas la force. Tenez, puisque nous venons à ce sujet, je dois vous dire une fois pour toutes ce que j'ai sur le cœur. Avec vos prétentions de savant, vous et votre digne acolyte, monsieur Truphémus, vous êtes des fous. Oh, dit Truphémus, directement interpellé et interrompu dans la dégustation d'un mélange à base d'acide cyanhydrite pour activer la digestion. Mais vous n'avez pas besoin de protester, monsieur Truphémus, s'écria madame Tibby, qui s'exaltait. Vous êtes des fous et des assassins, oui, des assassins. Est-ce qu'il y a le plus atroce, monsieur le grand docteur Aloysius? C'est que non content de tuer votre femme, voilà que vous empoisonnez votre enfant. Madame, interrompit Aloysius, les substances vénéneuses. Avec cela, qu'il ne suffit pas de la regarder, cette pauvre chérie. Est-ce que c'est là un enfant? Elle va avoir 5 ans. 5 ans, entendez-vous, dans 2 mois. Eh bien, est-ce que c'est là une fille de 5 ans? Elle est toute petite, toute faible. Ah, tant que j'ai eu du lait, moi, sa mère, je l'ai soutenue, je l'ai nourrie. Lors de vos premiers essais, j'ai réussi à introduire ici quelques bribes de cette nourriture que vous dédaignez, mais qui lui était nécessaire. Aujourd'hui, rien, plus rien que vos répugnantes combinaisons. Et elle meurt de votre azote et de votre oxygène. Mais vous êtes content, vous. Elle est souffreteuse, rachitique, elle ne grandit pas, elle ne vit pas. La mort a déjà la main sur elle. Et vous, enfermé dans votre officine d'empoisonneur, vous cherchez le plus court moyen de vous débarrasser d'elle et de moi. Dame Tibby, épuisée par ce violent effort, retomba sur son siège. Aloysius avait repris le calme qui convient aux adeptes de la vraie science. Seulement il murmurait: la femme, a dit Saint Jean Chrysologue, est la cause du mal, l'auteur du péché, la pierre du tombeau, la porte de l'enfer, la fatalité de nos misères. L'enfant regardait successivement sa mère et le docteur de son œil atone. Truphémus mangeait scientifiquement. « Vous avez fini ?» demanda enfin Aloysius. « À qui n'a pas la foi, nul ne peut la donner. Notre système repose sur des données positives que vos criailleries ne pourront infirmer. J'ai dit. » Le docteur était cependant plus troublé qu'il ne le voulait laisser paraître. Truphemus se pencha vers lui et lui dit un mot à l'oreille. Aloysius le regarda d'un air à la fois surpris et joyeux. « Oui, oui, » reprit Dame Tibi, qui avait subi cet aparté. « Comploté, comploté, mais tout cela ne peut durer. » « Madame, » dit Truphemus, qui se redressa autant que sa rotondité le lui permettait, « laissez-moi vous dire que vous vous méprenez sur mon caractère. Si vous supposez un seul instant que je puis donner quelques mauvais conseils au docteur Aloysius. Je suis persuadé, au contraire, que vous me remercierez lorsque vous connaîtrez le résultat de l'entretien que je sollicite en ce moment du père de Netty. » Dame Tibi haussa les épaules. Et après ce geste irrévérencieux, la séance fut levée. Quelques instants plus tard, les deux savants, grâce aux combinaisons mécaniques dont il a été parlé, se trouvaient dans la caisse dite cabinet de travail du docteur Aloysius. « Mon cher ami, » disait Aloysius, « ne vous jouez pas de mon impatience. Je vous avoue que les paroles de Dame Tibi m'ont vivement ému, sans que je voulusse lui laisser voir, et je ne suis pas à s'inquiétude sur le sort de notre cher Netty. Oh, aussi, mais que vous ai-je dit tout à l'heure ? Ben, que vous aviez trouvé le moyen de lui donner la force et la santé. Et je le prouve. » Mais la conversation devint alors si intime qu'il eût été impossible à Louis la plus fine d'en saisir un seul mot. Seulement, par intervalle, Aloysius laissait échapper à un geste d'étonnement ou hochait la tête en signe de doute. Alors Truphemus devenait plus pressant. Il parlait, parlait. Aloysius redevenait immobile et écoutait avec attention. Tout à coup, il s'écria « Mais admirable! Sublime! Docteur Truphemus, vous avez du génie !» Le lendemain matin, un mouvement inaccoutumé se produisit dans Quaritch House. Il fallait évidemment qu'un grand événement se fût accompli ou fût à la veille de se réaliser. Dès l'aube, la porte s'ouvrit et les deux savants sortirent. Dame Tibi et l'enfant les reconduisirent sur le seuil de la porte. Il était clair qu'il y avait eu réconciliation, car la mère avait l'air presque joyeuse. Quant à Netty, toujours indifférente, elle regardait la route et les lueurs du soleil. « Vous voyez bien, chère femme, disait Aloysius, que la science a toujours des secrets en réserve pour ses fervents serviteurs. » « Dieu vous entende, » murmura Dame Tibi. Aloysius et Truphemus ne s'arrêtèrent pas à Hoboken. Là, ils louèrent une voiture et roulèrent droit vers la grande route. On les vit passer Jersey City, Harlem, Yorkville, longer le parc et, fait plus remarquable encore, s'engager dans Broadway. Ils allaient toujours. Arrivés à Union Square, ils regardèrent autour d'eux. Ils semblaient aussi dépaysés que s'ils avaient habité des extrémités de la terre. Mais leurs yeux rencontrèrent l'enseigne d'une agence de construction. C'est là qu'ils se dirigèrent. L'industriel les écouta avec le flegme qui convient, lança de nombreux jets de salive noire en mâchant son tabac, puis il prit un crayon, dessina un plan, inscrivit des dimensions, fit ses calculs et finalement formula son prix. « Truphemus tira de sa poche un lingot d'or. Le marchand le regarda, le pesa, l'essaya et signa un reçu qu'il remit aux deux savants.
Vous commencerez demain, dit Aloysius.
Demain.
Et il vous faut 8 jours.
Bien. Et c'est pourquoi la route qui passait devant White House s'anima par le passage d'ouvriers qui allaient et venaient. Et c'est pourquoi encore, 3 mois après, Franz Kerry écrivait à une de ses amies la lettre suivante.
Franz Kerry à Edwards B. à Baltimore. Cher ami, tu vas enfin être satisfait. Tant de fois tu m'as raillé pour n'être pas amoureux que j'attends par le prochain courrier tes plus vifs éloges. Que veux-tu ? Il fallait que l'heure sonnât, et en vain j'écoutais tomber, une à une, dans le passé, les journées et les minutes sans qu'aucun son vînt frapper mon oreille. Tu connais mon esprit, né d'une mère maladive et à qui le positivisme de mon père avait fait l'existence désespérée. J'ai sucé dès ma naissance le lait mortel de la fantaisie. Pauvre femme, je m'en souviens encore. Je la voyais, ô tout petit que j'étais, se pencher sur mon berceau, regarder de ses grands yeux bleus mes yeux qui venaient de s'ouvrir. On eût dit qu'elle cherchait à y plonger comme dans un monde inconnu. Et moi, j'écartais bien large mes paupières pour lui laisser le champ le plus large possible. Puis, comme en un miroir, je voyais dans sa pupille dilatée se dessiner des mondes inconnus, irradier des rayonnements étincelants, ou bien se développer, profond et dans une perspective infinie, des paysages s'évanouissant des ombres lointaines. Ou bien encore, il me semblait que s'approchaient de moi, rapides comme s'ils eussent des ailes, des formes admirables de contours et de couleurs. C'étaient mes premières excursions dans le pays du rêve. L'attraction commençait, attraction terrible, qui vous entraîne si loin qu'il n'est plus de retour possible. Quand j'étais seul, je fermais les yeux et je regardais. Quoi ? La nuit. La nuit dont j'éprouvais l'amour que je recherchais, que je désirais. Dans ces ténèbres volontairement formées pour moi seul, je créais par l'imagination un monde qui m'appartenait et dans lequel nul n'avait pénétré et ne pénétrerait jamais. Jouissance égoïste que peuvent apprécier ceux-là seuls qui ont été assez maîtres d'eux-mêmes pour la savourer lentement, consciemment. Je grandis, je me trouvais lancé dans le monde extérieur. Combien il me parut mesquin en comparaison de mon univers à moi. Ce que vous appeliez le beau n'était qu'une déviation de cet idéal dont j'avais la pure notion. Vos couleurs étaient criardes, vos lignes irrégulières, vos monuments grotesques. En vain, je cherchais. J'entendais quelqu'un d'entre vous parler avec éloge de tel spectacle, de tel bâtiment. Aussitôt, je me rendais au point indiqué. Jamais je n'éprouvais d'autre sentiment qu'une profonde désillusion. Devais-je être plus heureux en contemplant l'homme qu'en étudiant ses œuvres ? Oh, que là encore la beauté me parut froide. Pas un front sur lequel resplendit la pensée de l'infini. Partout au contraire, écrits en rides prématurées, les soucis de la vie actuelle pratique, sur les plus jeunes visages, les préoccupations mesquines, sur les physionomies des vieillards, le regret du passé et non l'élan vers cet avenir cependant si proche. Et le dirais-je, la matérialité me faisait horreur. Je ne comprenais pas qu'on se condamnât à vivre dans ce milieu glacé qu'on appelle la société, et qui n'est qu'un immense cimetière, quand il était si facile de se créer une existence toute d'extase et de rêverie. Vint l'adolescence, ce que vous appelez l'âge des passions, comme si cette fougue n'était pas au contraire un effet de la matière tendant à dominer l'âme et en faire son esclave. Chez moi, la lutte fut rude. J'étais plein de vigueur, mon sang bouillonnait dans mes veines, mes tempes battaient. Mais peu à peu, le sentiment vrai se dégagea. Ce qui parlait en moi, c'était une aspiration nouvelle vers l'idéal qui est la beauté. Il ne me suffisait plus même de la contempler, de l'admirer. Je voulais la posséder, m'identifier à elle, m'en imprégner en quelque sorte, en me baignant dans ses effluves. Seulement, je fis au préjugé une concession. J'admis la relativité dans la perfection, c'est-à-dire que j'aimais une femme. Elle était admirablement belle. Oh, sur ma foi, jamais plus splendide manifestation de la vie n'avait pu être rencontrée. Vous la proclamiez tous le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et les femmes elles-mêmes se retournaient sur son passage, s'irritant de l'hommage qu'elles étaient contraintes de lui rendre. Ah, je me souviens, et j'en ris encore. J'en ris, je te l'affirme. Je me souviens du débordement d'envie qui monta jusqu'à moi lorsque la belle Thémia me choisit entre tous ses adorateurs. Pauvre femme, elle m'aimait, j'en ai la conviction. Quand je lui parlais, elle s'efforçait de me comprendre et fixait sur moi ses grands yeux de velours comme si elle eût voulu lire dans ma pensée. Pauvre, pauvre, elle était belle comme votre marbre, comme votre diamant, marbre dont la plus belle pierre est striée, diamant qui reflète la lumière et ne saurait de lui-même tirer un seul rayon. Un jour, je partis en la maudissant et ne la revis plus. Alors, je voyageais. Il me semblait que la nature, avec ses dimensions surhumaines, serait enfin à la taille de mes créations imaginaires. Certes, je ne suis pas un profane, et je défends à tous de me refuser l'intelligence du beau. Je comprends aussi bien que qui que ce soit les jouissances qu'un esprit circonscrit dans ses aspirations peut ressentir, notamment en présence de l'océan, alors que la nuit on est seul sur l'avant d'un navire à voile. Le craquement des mâts est une harmonie qui rappelle la faiblesse de l'œuvre humaine en face de ce coin de l'œuvre créatrice. Il y a dans le souffle qui passe comme une expiration du tout immense. L'horizon est si éloigné que l'œil peut à peine noter ses contours. Mais plus loin, Colomb, marchant vers l'Amérique, avait un but auquel se heurtait sa pensée. Il pouvait être satisfait, mais pour celui qui a la conscience de l'infini, où est le but? Le non-fini s'étend au-delà de la conception, qui n'est elle-même qu'un relais, un temps de repos. La pensée n'étant qu'une émanation du cerveau, organe imparfait, puisqu'au-dessus, au-delà de toute chose créée, il y a la chose, la force créatrice, la pensée, dont procède de l'infirmité de son producteur. Et qui sait ce que rêve la pierre lancée en avant par la fronde? Elle se sent gravir les échelles de l'air, et elle aspire aux espaces immenses, immesurés. Mais la force, seule puissance, essence réelle de l'humanité, qui traverse d'un seul bond nos mondes grotesques, et n'y trouvant même pas un point d'appui, se demande « Mais où? Comment? Pourquoi ?» Non, jamais tu ne connaîtras cette torture. Tu es raisonnable, toi, tu t'occupes de tes affaires. Je t'aime, je ne saurais dire pourquoi. Toi seul me rattaches, ou mieux me rattachais à l'humanité. Tu as une bonne nature, tu es franc, tu es loyal. Il y a aussi des profondeurs dans l'honnêteté, et la bonté tient de l'infini. Et tu me consolais alors de l'étroitesse des autres cœurs.
Lorsque je revins, ayant visité ce que les hommes avaient visité avant moi, ayant en outre, et par orgueil, gravi des pics réputés inaccessibles, contemplé des sites sur lesquels nul œil humain ne s'était reposé, je consultai mon cœur. Il était vide. Nulle joie n'était venue satisfaire cette faculté d'expansion qui entraînait tout mon être. C'est alors que je te fis part de mon projet. Je me trouvais entre deux alternatives, la mort ou l'étude. La mort. Pourquoi ce mot me faisait-il peur? Pourquoi éprouvais-je, en le prononçant, une sensation semblable à un froid glacial? Pourquoi la désagrégation de moi-même me paraissait-elle effrayante? Oh, si j'eusse été sûr, du moins, que dégager les fibres matérielles qui l'enlacent comme un réseau d'acier, ma pensée aurait pu, libre, s'élancer vers l'immatérialité et plonger à jamais dans les vagues sans cesse renaissantes de l'infini. Mais où était la preuve de cette possibilité? Avant tout, je voulus savoir, pressentir cet avenir, avant de m'y élancer, comme ferait le plongeur qui sonderait la mer avant de s'y jeter. Et puis, ces facultés dont je constatais l'existence en moi, ne pouvaient-elles pas, par leur exercice, me procurer les jouissances cherchées? L'instinct qui me guidait n'avait-il pas, n'était-il pas la preuve que cet instinct même pouvait être assuré, assouvi? L'homme qui ressentirait pour la première fois les attaques de la faim ne trouverait-il pas dans cette appétence même la preuve de l'existence des aliments? Alors il marcherait pour chercher ce qui ne vient pas à lui. Je résolus de me livrer à des études nouvelles. Et tu le sais, ami muni de tous les instruments nécessaires, fort de mon ardeur et de ma volonté, je m'exilai volontairement de la ville pour m'installer sur la petite colline qui est au nord d'Oboken. Là, depuis plusieurs mois, loin du monde, je ne regarde plus la terre, mais sans cesse mes regards, tournés vers le ciel, interrogent cet espace immense dont les limites sont imperceptibles. Ah, très cher, si tu savais quel environnement splendide envahit tout mon être pendant ces longues contemplations. Le tourbillonnement de l'infini se répercute dans mon cerveau. Qui donc a parlé d'opium, de hachich, de toutes ces drogues empoisonnées qui surexcitent le cerveau pour lui donner une jouissance fiévreuse et dont il n'a même pas la conscience nette? Moi, calme, froid, je regarde le ciel. Alors l'hypnotisme de la profondeur sidérale s'impose à mes organes, et dans une sorte d'immobilité cataleptique, je perçois des splendeurs innommées. Mes sens se décuplent. Je vois dans ces éternités la vie des mondes qui se meut et se perpétue. Et quel mouvement! Les vastes cascades de lumière tournant sur elles-mêmes, tombant et remontant sur un cercle sans limite, les écroulements de l'éther effleurant les masses sidérales, et parfois, épouvantement de ma faiblesse en face de cette force, les anéantissant comme une balle de papier dans le four d'un fondeur. Alors je retombe brisé, écrasé. L'ivresse est trop violente. Les ressorts de mon être ont plié sous cette pression du splendide, et la nature, reprenant son empire, je m'évanouis. Et c'est pendant une de ces crises, il y a quelques jours, que se produisit le fait qui devait avoir sur mon existence une influence décisive. C'était dans une après-midi. Le ciel était pur. Seulement quelques vapeurs nageaient dans l'air où la lumière semblait se noyer comme dans un lac transparent. Je regardais et bientôt se présentèrent pour moi les splendeurs cherchées. L'horizon me parut un immense anneau irisé au milieu duquel, et par couches parallèles, se mouvaient des cercles concentriques formant des ondes lumineuses et changeantes admirablement teintées. Ces ondes se multipliaient et toujours l'espace laissé libre par les circonférences diminuait d'étendue. Au point central resplendissait un faisceau rayonnant. Tout à coup, au foyer même de cette éblouissante symphonie de lumière, paraît un être. Je ne puis le décrire, les mots me manquent. C'était la synthèse de toutes les beautés, l'éclosion de toutes les grâces. C'était l'ange, c'était l'idéal, la pensée prenant forme, le rêve s'animant. Elle me regarda, ses yeux rencontrèrent les miens, je fus comme foudroyé. Naturellement, lorsque je revins à moi, ma première pensée fut que cette apparition n'avait existé que dans mon imagination. Et d'ailleurs, où pouvait vivre semblable perfection ? Je m'étais assis sur la terrasse de ma maison, la tête dans mes deux mains, laissant errer mes yeux à l'aventure. Je me reposais de ces émotions en regardant la terre, quand un étrange spectacle frappa mes regards. Croirais-tu que depuis mon séjour dans cette habitation, je n'avais pas encore examiné les environs? Je n'ai pas besoin d'insister pour te faire comprendre que mes yeux exercés à la vision dès ma plus tendre enfance, sont doués d'une faculté de perception infiniment supérieure à celle que possèdent les yeux des autres hommes. Ce que j'apercevais distinctement, ce qui me frappait d'étonnement, était, à la distance de 4000 environ, une sorte de palais de verre de la dimension d'un kiosque oriental. Pas une parcelle de fer ni de bois ne s'apercevait. Chose curieuse, les plaques de verre sur lesquelles le soleil jetait ses rayons étincelants étaient sans exception de couleur violette, mais de ce violet qu'on ne trouve que dans le cristal nommé iolite. Le kiosque se trouvait au milieu d'un jardin dont, sans exception, les arbres, les branches et les feuilles elles-mêmes présentaient cette même couleur. La terre, le sol était violet. Une porte s'ouvrit et une jeune fille parut, vêtue de longs vêtements violets. Ses vêtements étaient formés d'une gaze laissant circuler la lumière autour du corps, le plus admirable que jamais sculpteur ait pu rêver. Ces formes divines n'empruntaient rien de leur perfection à l'humanité. C'était comme un moulage de vapeur condensée, tant cette beauté était suave et pure. Un voile de même étoffe et de même couleur ombrageait le visage, dont les lignes étaient idéalement ravissantes. Je poussai un cri. C'était elle, c'était celle que quelques minutes auparavant m'était apparue toute rayonnante de lumière et d'immatérialité, au milieu du ciel étincelant. C'était elle. Ah, je compris alors que c'était l'amour. Je compris cette envahissante sensation qui s'empare de toutes les forces de l'être, les secoue et les avive. Elle. Pour la première fois, je pouvais prononcer ce mot avec un indicible tressaillement, alors qu'il se répercutait comme un écho dans toutes les fibres de mon corps. Cette femme, cet enfant, car je ne savais rien sur mon honneur. Le détail m'échappait. C'était ma pensée à moi, c'était mon infini, c'était ma vie. Enfin, j'existais, je sentais, j'aimais, elle. Puisque tu veux bien t'intéresser à ce qui me touche, je te tiendrai au courant de ce qui va se passer. Jusqu'ici, je n'ai pu arriver jusqu'à elle, mais je ne désespère pas d'y parvenir.
désespéré quand toute ma vie est concentrée dans cette volonté. Quand elle m'attend comme je l'attends, quand elle m'appelle comme je l'appelle. À bientôt, ami. À bientôt.